Que Dieu vous bénisse. Vous savez, l'obéissance n'est pas seulement dans la parole de Dieu. L'obéissance est aussi quand nos sœurs nous disent, mettons-nous ici, nous devons obéir. Amen, hein? Ça, ceci, c'est l'obéissance. Parce que des fois, nous pensons seulement, l'obéissance, c'est injurier ou insulter quelqu'un. Mais l'obéissance aussi quand les femmes ou les hommes qui sont mis à la disposition de l'assemblée, ils nous disent, sœur ou frère, mettez-vous là-bas et tu refuses. Ceci, c'est de la désobéissance. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu parce qu'il est bon. C'est un dimanche. Le Seigneur a permis que nous soyons ici pour écouter la parole. La parole nous dit que Paul a dit, toute écriture est inspirée pour corriger, pour enseigner, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit utile à toute bonne œuvre. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes à l'église pour être corrigés, pour être enseignés, pour être instruits pour la bonne marche de notre vie chrétienne. Amen. Hein? Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de vous parler un sujet qui est simple, mais qui est capital et crucial pour la vie de chacun de nous. Nous allons comprendre pourquoi nous sommes là. Pourquoi sommes-nous chrétiens? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 14. Verset 25 jusqu'à 27. Après, on va sauter, on va lire les 33. Luc chapitre 14, verset 25. Jusqu'à 27. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Verset 33. « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. L'Éternel, notre Dieu, nous te disons merci encore une fois. Ton peuple, Seigneur, s'est réuni ce matin pour écouter ta parole. Je ne suis qu'un simple instrument, mon Dieu, mon roi. Que ton Esprit Saint mette tes paroles dans ma bouche afin que je puisse les transmettre à ton peuple pour que ces derniers soient instruits, corrigés, enseignés et utiles pour ton service. Que je me fasse afin que ta gloire puisse se manifester, afin que ton nom soit élevé, afin que ton nom, Seigneur, soit glorifié à jamais. Père, ton nom est saint. Sanctifie, Seigneur, ce moment. Sanctifie, Seigneur, ce peuple qui est devant toi, afin que la gloire te revienne. Cher Saint-Esprit, me voici. Utilise-moi comme tu le veux. Et que ton esprit soit sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous venons de lire la Bible dans Luc chapitre 14, versets 25 à 27. Ici, c'est la parole de Christ. Et Christ, il a dit quelque chose. Il a dit, avant d'aller, quand il est ressuscité, il a donné une recommandation à son disciple, à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Hein? Ça, c'était la recommandation de Christ. Et voilà pourquoi ce matin, je veux que tu saches et tu vas te définir en fonction de ce que tu vas entendre. Si tu es réellement un disciple de Christ. Si tu es réellement un disciple de Christ. Et Christ a donné comme une recommandation, allez. Il a donné la recommandation aux disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, le souhait de Christ est que nous soyons ses disciples. Mais en cela, Christ a défini la chrétienté. Christ voulait nous donner la définition d'être un disciple. D'être un vrai chrétien. Ce n'est pas le fait de lire la Bible. Ce n'est pas le fait de prier tous les jours. Ou d'enseigner, ou d'être serviteur qui nous fait des disciples. Amen. Hein? Ce n'est pas parce que tu pries tous les jours. Ce n'est pas parce que tu jeûnes tous les jours que tu es un disciple de Christ. Je n'ai pas dit que le fait de prier ou de jeûner, ce n'est pas mauvais. Parce que la Bible nous dit de prier sans cesse. La Bible nous recommande de lire la parole de Dieu tous les jours, de méditer la parole de Dieu. Mais ici, Jésus-Christ nous donne la définition d'être un bon disciple. Il a dit... Si quelqu'un vient me suivre, si quelqu'un veut être un bon disciple, qu'il doit haïr son père, c'est dur. Il doit haïr sa mère, ses frères, ses enfants. Et dans verset 5, à la fin, il a dit, et même sa propre vie. Donc si quelqu'un aime son frère, aime ses sœurs, aime ses parents, plus que Jésus-Christ, il ne peut pas, il n'est pas digne d'être un disciple. Alléluia. Si tu aimes ta vie plus que Jésus-Christ, tu ne peux pas être son disciple. Alors la question peut se poser, parce que la parole de Dieu ne se contredit pas. Et voilà pourquoi la Bible dit que l'Esprit... Les Écritures tuent, l'Esprit vivifie. Et quand tu ne sais pas, quand tu n'es pas inspiré, quand l'Esprit, tu n'es pas poussé par l'Esprit de Dieu, tu vas haïr ton frère. Tu vas haïr tes sœurs. Alléluia.
Tu vas haïr même tes parents.
Et tu vas dire que non, voilà, la Bible nous dit, pour que je sois un bon disciple, je dois haïr mes parents. Non. Alléluia. Quand Christ parle de cela, Christ nous met que tu ne peux pas aimer ton frère, tu ne peux pas aimer tes parents plus que Jésus-Christ. Alléluia. Et que ces derniers, s'ils font opposition à ton salut, tu dois se débarrasser d'eux. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit quelque part, si tu vois que ta main te pousse à pécher, coupe-le. Si tu vois que ta main ou ta jambe ou l'un des membres de ton corps te pousse à faire quelque chose, il faut se débarrasser, il faut le couper. Ce n'est pas dit que ta main te pousse Voler, il faut la couper, donc. Alléluia. Et il faut, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ça, c'est la définition que Christ nous a donnée. Que si tu veux le servir, si tu veux être le disciple de Christ, il faut haïr même sa propre vie. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Si tu ne portes pas la croix, tu ne peux pas être le disciple de Christ. Ça, c'est la définition que Christ a donnée. Parce que quand nous lisons dans Deutéronome, la Bible dit ceci. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons notre Dieu, de Dieu qui n'est ni toi, ni tes pères n'avaient connu, et quand tu lis à la fin, il dit, il faut les quitter. Alléluia. Voilà la définition qu'on vient de lire. Si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère. Donc, si ta mère, ton père ou ta femme t'incite à être à l'opposition aux enseignements de Christ, il faut quitter cette personne. C'est ça que Christ voulait dire. Et quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit, il faut porter sa croix. Porter la croix, c'est de se renoncer. C'est la souffrance que, étant que disciple, que tu vas endurer. Alléluia. C'est de se laisser faire, être conduit par Christ. Porter la croix, c'est de se sacrifier. Et dans Romains, la Bible nous dit, nous devons donner nos corps comme des sacrifices vivants. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'aiment pas les sacrifices. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas les sacrifices. N'aime pas ses données, refuse la croix. Or, c'est dans la croix que nous avons tout réussi. C'est dans la croix qu'on a réussi la rédemption de nos péchés. C'est à la croix que nous avons eu notre bénédiction. C'est à la croix que toutes nos souffrances ont été apportées. Mais beaucoup d'entre nous refusent la croix. Il dit, il faut porter la croix. Et dans 33, il dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Ça, c'est la définition de Christ. Que beaucoup d'entre nous ne veulent pas se renoncer à eux-mêmes. Ils ne veulent pas se laisser conduire par Christ. Ils ne veulent pas être enseigné par la parole de Dieu. C'est renoncer à soi-même. Être un disciple de Christ. C'est bien de chanter pour Christ. C'est bien de lire la Bible. Mais nous devons savoir que porter la croix, c'est renoncer à soi-même. S'abandonner à soi-même. C'est ça que Christ nous demande de faire. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent à l'église, qui sont appelés des chrétiens, des disciples, mais qui n'ont pas encore renoncé à leur vie. Qui n'ont pas encore renoncé à eux-mêmes. Ils sont encore dans leur vie. Ils sont encore dans leur moi, dans leur ego. Alors que Christ nous demande de nous renoncer à nous-mêmes. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Parce que quand nous regardons au début, la Bible dit que des grandes foules faisaient route avec Jésus-Christ. Des grandes foules, comme nous sommes là, on suit Jésus. Mais à un moment donné, Christ nous regarde. Il dit que si tu ne te renonces pas à toi-même, si tu ne portes pas ta croix, tu n'es pas digne d'être appelé mon disciple. Quel que soit le titre que je peux avoir dans l'église, quelle que soit ma façon de prêcher, quelle que soit ta façon de faire les choses dans l'église, mais si tu ne te renonces pas à toi-même, si tu ne portes pas ta croix, tu n'es pas digne d'être appelé disciple de Jésus-Christ. Et dans le livre de Jean, il y a quelque chose que nous allons voir aussi. Avant que Christ aille à la croix, je crois que tout le monde connaît ce passage dans Jean 17. Jean chapitre 17. C'est la prière que Christ avait faite avant qu'il puisse accomplir la mission que Dieu, le Père, lui avait mandatée. Et devant les disciples, il a tenu quelque chose de très fort dans Jean 17, verset 14. La Bible a dit ceci. Il dit ceci. Je leur ai donné la parole. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Mais de les préserver du monde, du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ, avant d'aller accomplir la mission, il s'est présenté devant Père. Il a posé un acte de l'intercession. Il a présenté les disciples auprès de son Père. Il a dit, Père, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. Bien-aimé, un disciple, c'est quelqu'un qui appartient dans ce monde, mais qui n'est pas de ce monde. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Christ l'a dit, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Parce que bien que Christ était venu sur la terre, mais son royaume n'était pas de ce monde. Tu dois savoir que tu vis dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Et combien de fois, étant que des disciples de Dieu, nous oublions cela. Bien-aimés, nous sommes confrontés à beaucoup des influences de ce monde. Nous sommes influencés par le monde. Nous sommes influencés par tout ce qui se passe dans ce monde. Et tant que les chrétiens, tu as l'envie de vivre une vie de sainteté. Tu as l'envie de vivre une vie qui plaise à Dieu. Mais le monde est là. Alléluia. Tu ne peux pas faire autre chose. Tu as l'envie de faire la volonté de Dieu, mais le monde est là, avec toutes ses influences. Et il y a des fois, tu veux te débarrasser de quelque chose, mais c'est comme si tu es attaché à quelque chose. Parce que nous sommes dans le monde. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. De le préserver du mal. Parce que Christ savait que le monde dans lequel nous vivons est sous l'emprise du diable. Est sous l'emprise du monde des ténèbres. Voilà pourquoi Christ pouvait dire, préserve-le du mal. Parce que le monde est sous l'emprise du diable. Parce que quand il a été précipité avec tous ses pouvoirs. Voilà pourquoi il y a des fois, tu as envie de faire le bien, mais le mal est toujours là. Mais devant cette situation, qu'est-ce que nous, étant que des chrétiens, nous pouvons faire? Parce que le mal est là. Tu veux faire quelque chose, mais le mal est là. 16, il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Bien-aimés, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne pouvons pas se comporter comme le monde se comporte. Alléluia. Nous ne pouvons pas marcher selon les principes de ce monde. Nous ne pouvons pas marcher selon l'évolution de ce monde. Alléluia. La parole de Dieu ne change pas. Parce que le monde évolue et que l'Église ou la parole de Dieu doit évoluer. Non. Alléluia. La parole de Dieu reste telle qu'elle est. Elle ne change pas. Alléluia. Si le monde évolue, la technologie évolue, mais notre mode de vie, étant que les disciples, étant que les chrétiens, ne doit jamais changer. Alléluia. Amen. Doit rester la même. Alléluia. Amen. Si tu es chrétien, reste chrétien. Tu ne peux pas copier le monde. Tu ne peux pas copier le langage de ce monde. Parce que tu es un disciple de Jésus-Christ. Un disciple, c'est celui qui suit les enseignements de son maître et de le mettre en pratique. Alléluia. Parce que un maître, on a beaucoup de maîtres dans ce monde. On a beaucoup de maîtres dans ce monde. Mais nous, notre maître, notre modèle, c'est Christ. Alléluia. Notre Christ, notre maître, c'est Christ. Alors, si nous sommes, si Christ est notre maître, nous devons suivre et obéir aux enseignements de notre maître. Parce qu'un disciple, c'est celui qui suit son maître. Et si tu es disciple de Christ, si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois suivre automatiquement les enseignements de ton maître. Et aussi, non pas seulement suivre, mais le mettre en pratique. Bien-aimés, voilà la raison d'être dans l'Église. On ne vient pas à l'Église, bien-aimés, pour être béni. On ne vient pas à l'Église pour chercher les enfants, pour chercher le travail. Notre raison d'être dans l'Église, c'est qu'un jour, qu'on puisse attendre la trompette. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui aiment ça. On va prendre deux ou trois versets. Jean, après nous allons revenir à ça. Jean chapitre 3. Pardon. 3 Jean, épître des Jean. Épître des Jean. Après tu mettras quelque chose par là et parce que nous allons y revenir. Jean chapitre 3, verset 1. Il dit ceci. 3 Jean, pardon. Épître des Jean, verset 1, parce qu'il y a verset 2. J'ai dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Ça, c'est Jean qui parle à Gaïus. Alléluia. Nous allons y revenir sur l'histoire de Gaïus. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Je ne suis pas contre le message de la prospérité. Mais je vais te dire une chose. Pour que tu prospères à tous égards, pour que tu sois en bonne santé, Jean il dit, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. C'est-à-dire, si ton âme est prospère dans des choses spirituelles, alors tout ce que tu recherches, tu l'auras. Alléluia. Si ton âme est correcte, si tu as une bonne relation avec ton Dieu, si ton âme prospère, si en toi, dans ton âme, et qu'il y a beaucoup de choses de Dieu en toi, tu seras béni. Alléluia. Alléluia. Le dimanche passé, j'ai parlé à ton air sur les alliances et les promesses. Bien-aimé, les promesses de Dieu sont rattachées à l'alliance. Alléluia. Les promesses de Dieu sont rattachées à l'alliance que tu as avec ton Dieu. Alléluia. On y va. Deutéronome. Chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Ça, c'est Moïse. La Bible dit ceci. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Si tu commences par le verset 1, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Alléluia. Si tu commences dans le 28 chapitre 1, tu vas voir que la Bible dit, si tu obéis à la voix de Dieu, l'Éternel ordonnera à la bénédiction. Alléluia. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. C'est-à-dire que si tu es réellement un disciple de Christ, Dieu va te soucier de toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste. Amen, hein? Parce que notre Dieu est Dieu. Alléluia. Le problème, c'est quoi? Le problème, il y a beaucoup de qui viennent au Seigneur avec de mauvaises intentions. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui sont venus en Christ parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Mais quand nous venons dans l'église, quand tu es déjà disciple de Christ, tu dois savoir que les bénédictions sont secondaires par rapport à la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, si tu marches dans la volonté de Dieu, si tu marches dans la volonté de Dieu, si tu es un vrai disciple de Dieu, l'Éternel lui-même ordonnera à la bénédiction. Il dit, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Alléluia. Parce que beaucoup nous citons les versets, mais nous oublions certaines parties. Ah, la parole nous dit, Dieu va me bénir. Je veux que tu prospères à tous égards. Oui, mais à la fin, il faut voir comment prospère l'état de ton âme. Toi, ton âme n'est pas encore prospère. Alléluia. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Et ils oublient une partie spirituelle dans les lieux célestes. Ah, nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Oui, mais il faut voir à la fin, c'est marqué spirituel. Or, quand on parle de spirituel, on parle de l'homme intérieur. Alléluia. Alléluia. Il faut que l'homme intérieur, Il faut que l'homme intérieur soit transformé. Il faut que l'homme intérieur soit transformé. Si l'homme intérieur n'est pas transformé, n'attendez pas aux bénédictions de Dieu. Voilà pourquoi tu verras beaucoup de gens abandonnent à la fin. Parce que sa vie n'est pas conforme à Dieu. Parce que sa vie n'est pas ce que Dieu veut en lui. Il ne se laisse pas travailler par Dieu. Il ne se laisse pas tailler par Dieu. Il veut suivre le monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Alléluia. Tous les mondes sont dans les églises. Alléluia. Bien aimé, le monde nous envahit. Le diable sait ce qui nous sommes dans le Seigneur. Le but du diable, c'est de récupérer ce qui est à nous. C'est de nous gagner. Il ne veut pas aller tout seul, mais il veut nous récupérer. Alléluia. Le diable sait ce que tu es. Le diable nous connaît. Il connaît la valeur d'une âme. Voilà pourquoi il nous guette. Il nous guette pour prendre ce que Dieu a placé ou a mis en nous. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses dans le monde. Il veut nous influencer. Il veut que nous vivions selon les principes de ce monde. Voilà pourquoi ce matin, je veux que tu changes ta façon de voir. Je veux que tu changes ta façon de marcher avec ce Dieu-là. L'apôtre Paul a dit, j'ai posé le fondement. J'ai posé le fondement. Il y a la parole de Dieu en toi. Mais le diable veut voler cette parole. Tu viens à l'église, mais la parole de Dieu n'a pas effet sur toi. Parce que tu n'as pas encore abandonné totalement ta vie. Parce que tu n'as pas encore renoncé à soi-même. Parce que tu n'arrives pas à porter la croix, à accepter la souffrance. Il faut accepter la souffrance. Il faut porter la croix. Et le monde est toujours là pour... Il veut nous faire arracher. Il veut nous faire voler ce que Dieu a mis en nous. Avec toutes ses influences, Jésus-Christ l'a dit... Préserve-les du mal. Ne les ôtez pas du monde, parce que nous sommes encore dans le monde. C'est vrai, tu peux te dire, mais comment il peut dire que je suis dans le monde, je dois faire ce que le monde fait, mais le comportement, notre comportement, notre façon, je l'ai toujours dit et je le redirai toujours. On n'a pas besoin d'écrire si tu es chrétien. Mais notre façon de parler, ta façon de parler, va nous dire, va témoigner ce que tu es. La double vie ne sert absolument à rien. Revenons dans 3 Jean, dans l'épître de Jean, là où nous étions. Parce que dans l'église, il y a des chrétiens qui sont des disciples, qu'on peut appeler des disciples thermomètres et des thermostats. Alléluia. des thermomètres et des thermostats. C'est-à-dire quoi? Vous savez, les thermomètres a comme fonction de mesurer la température ambiante. S'il fait 10, s'il fait chaud, ou il fait 10, le thermomètre va te marquer 10. Alléluia. Et le thermostat, c'est l'appareil qui a comme fonction de maintenir la température ambiante ou la température constante dans la maison. Alléluia. Et aujourd'hui, dans les églises, on retrouve ces deux types de chrétiens. Alléluia. Jean, dans l'épître de Jean. Jusqu'à 9. J'ai été fort, l'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour le frère, et même pour le frère étranger, lequel on rendit témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir de païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. 9. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotref, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Alléluia. 10. C'est pourquoi je vais vous voir rappeler les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, et il ne reçoit pas le frère et ceux qui voudraient le faire, et il les empêche et les chasse de l'église. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Jean. C'est parmi les apôtres qui a un peu beaucoup vécu. Et il parle à Gaius. C'est un chrétien, c'est un disciple. C'est un compagnon de l'apôtre Paul. Et ici, il témoigne. Nous allons commencer d'abord par ce que moi j'ai appelé les chrétiens thermomètres. Les chrétiens thermomètres. Je vous ai dit que le thermomètre, c'est un appareil qui a comme fonction seulement de refléter la température qui se trouve à l'extérieur ou dans l'enceinte de la maison. C'est-à-dire, si il fait 10, le thermomètre va te dire il fait 10. Et ici, je compare les disciples ou les chrétiens avec les thermomètres parce que les chrétiens ou ces chrétiens, ce sont des gens qui évoluent en fonction des temps et des circonstances. Alléluia. C'est-à-dire, on parle de Diotref. Il dit, j'ai écrit les mots à l'église, mais Diotref qui aime être le premier parmi eux ne nous reçoit point. Et quand tu lis à la fin, il dit, l'apôtre Jean témoigne de cet homme comme un chrétien qui n'est pas stable. Alléluia. C'est un chrétien qui n'est pas stable. C'est-à-dire, c'est comme un caméléon. Le caméléon prend la couleur du lieu où il se trouve. Si là-bas il fait vert, lui aussi se change en vert. Si là où il est jaune, il prend la couleur. Alléluia. C'est, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de chrétiens qui sont pareils. C'est-à-dire, dans le monde, il est dans le monde. Il parle comme un mondain. Il s'habille comme le monde. Il parle comme le monde. Il fait tout ce que le monde fait. Alléluia. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas stable. À l'église, tout le monde est saint. Tout le monde est saint. Parce qu'il est dans l'église. Mais dès qu'il sort, c'est une autre personne. Ça, ce sont des chrétiens qui sont comme des thermomètres. C'est-à-dire, ils évoluent ou ils prennent la température ambiante là où il est. Des chrétiens thermomètres. Des chrétiens qui évoluent selon les circonstances, selon le temps. L'apôtre Paul nous dit, il dit, au milieu des païens, j'étais comme eux. Mais il faut regarder le but. C'est afin de les gagner. Alléluia. Est-ce que quand nous, nous sommes devant les païens, quand nous, nous parlons comme des païens, est-ce que nous avons le but de les gagner? C'est ça la question qu'on doit se poser. Alléluia. Je ne suis pas contre le monde. Mais étant que des chrétiens, nous devons faire la distinction. Nous ne devons pas vivre comme le monde vit. Alléluia. Comme Christ nous dit, nous sommes dans ce monde. Nous vivons dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Bien-aimé, si tu es tiède, pardon, si tu es chaud, reste chaud. Si tu es chaud ou froid, si tu es tiède, le Seigneur va te vomir. Alléluia. Le Seigneur va te vomir. Le Seigneur nous dira dans ces jours-là. Je vais me poser la question, Seigneur, j'ai prêché tous les dimanches. J'ai prêché tous les dimanches. J'ai chanté à l'église. J'étais le premier arrivé à l'église. Tu n'as pas vu ces jours-là? Quand il n'y avait pas du monde pour ramener à l'église, c'est moi qui les avais mis dans ma voiture. Tu vas rappeler le Seigneur tout ce que tu as fait. Mais si tu es un chrétien caméléon, si tu es un chrétien qui change du jour au lendemain, la Bible dit, le Seigneur te dira, le Seigneur me dira, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez le péché. Alléluia. Diotrephe, c'est quelqu'un qui n'était pas dehors. Alléluia. Diotrephe n'était pas une personne simple, mais c'est quelqu'un qui était engagé. Il dit, c'est pourquoi je vais vous voir rappeler les actes qu'il commet en tenant compte, nous, des méchants propos. Est-ce qu'il était païen? Non, il était chrétien. Il était dans l'église. Mais regarde comment l'apôtre Jean témoigne de lui. Non content de cela, il ne reçoit pas le frère. Et ce qu'il voudrait le faire, et ils empêchent et les chassent de l'église. Bien-aimé, il y a des diotrephes dans les églises. C'est-à-dire, les gens qui sont là, qui empêchent même les autres de venir dans l'église. Alléluia. Qui sont là seulement pour critiquer. Qui sont là, ils viennent dans l'église, mais ils ne veulent pas que l'œuvre de Dieu puisse grandir. Mais tu le verras tous les dimanches. Il empêche les autres de venir dans la maison de l'Éternel. Ben, qu'est-ce que tu vas aller chercher dans cette église-là? Il n'y a rien. Tu ne vois pas que moi, je suis là, ça fait 10 ans, 15 ans. Mais il ne veut pas quitter l'église. C'est des diotrephes. Ils sont dans l'église. Mais il veut toujours faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il y en a beaucoup dans l'église. Des diotrèfles. De Timothée, chapitre 4. De Timothée, chapitre 4, verset 10. Pardon, de Timothée 4, 14, 15, pardon. J'ai dit la parole. J'ai lu. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes, des mots qui ne servent à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Pardon? Ah, pardon. Je suis à 2 Timothée 4. Ah oui, pardon. Pardon, ouais. Alexandre le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Alléluia. 15. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Alléluia. Quand nous commençons dans 10, il dit, dans 4, 10, Damas m'a abandonné par amour pour les siècles présents. Damas, il était compagnon de Christ. Il était avec Jésus-Christ. Il était avec Paul. Il a marché avec Paul. Il était compagnon de Paul. Il était dans l'église. Mais regarde, Demas m'a abandonné par amour pour les siècles présents. Les siècles présents, c'est les siècles que nous sommes. Alléluia. Bien-aimé, nous devons faire attention. Le diable rôde autour de nous. Il veut nous dévier de notre chemin pour le salut. Il veut nous dévier du salut. Voilà pourquoi nous devons être prudents. Les enfants de Dieu ne doivent plus prendre les choses de Dieu en légère. Demas, c'est quelqu'un qui était engagé. Peut-être plus que toi et moi. Mais la Bible dit, l'apôtre Paul a dit, il m'a abandonné par amour pour les siècles présents. Les siècles présents, c'est quoi? C'est la richesse, les bénédictions. Il veut gagner, il veut aller plus vite. Il ne veut pas attendre la bénédiction de Dieu. Il veut être occupé les premières places. Il a abandonné, il a dit non. Je t'abandonne. Ça, c'est Demas. Et 14, il a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Quand l'apôtre Paul parle de ça, c'est que c'était grave. Il a dit, Alexandre, il m'a fait beaucoup de tort, beaucoup de mal. Combien d'Alexandre nous n'avons pas dans l'église? Combien de Demas? Combien de diotrèfles que nous n'avons pas dans l'église? Bien-aimé, change ta façon. Ma prière est que le temps que nous passons, ce que j'ai toujours dit et ce que je le dirai toujours, que notre marche avec le Seigneur ne s'arrête pas là. Notre marche avec le Seigneur ne s'arrête pas là. Ne sois pas comme Demas. Ne sois pas comme Forgeron, Alexandre de Forgeron. Ne sois pas comme Diotref. Des gens qui étaient dans l'église. Qui sont dans l'église. Mais qui vivaient comme le monde. Qui ne se conformaient pas à la parole de Dieu. Nous, on le voyait comme des chrétiens. Mais alors, Dieu, devant Dieu, ils étaient des gens qui étaient déjà hors. Et le deuxième, on va voir Gaius. Celui qui est comme le thermostat. Il maintient la température. Quand nous recevons Jésus-Christ, Dieu met en nous son esprit. Le Saint-Esprit est en nous et c'est le même esprit-là qui doit demeurer permanent. C'est comme dans l'ancienne alliance avec les chandeliers qui restaient tout le temps allumés. Que le flamme-là reste allumé, reste constant. Alléluia. Reste constant dans ta vie. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, reste constant, comme Gaius, où l'apôtre Jean témoigne pour lui. L'apôtre, il témoigne pour lui, il dit, j'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés. Ils ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Alléluia. La manière dont tu marches dans la vérité. Ce matin, Gaius faisait partie de l'église. Alexandre faisait partie de l'église. Demas faisait partie de l'église. Alors, ce matin, est-ce que tu es Gaius ou Demas? Alléluia. C'est à toi-même de faire l'examen de ta vie. De regarder si je suis Gaius ou Diotref, ou Forgeron, Alexandre. Alléluia. La vie chrétienne ne peut pas se limiter à cela. L'apôtre Paul dira, j'ai combattu les bons combats. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. Alléluia. J'aime beaucoup ces versets. Parce que la vie chrétienne, bien-aimé, c'est un combat. Tu reçois des coups, mais il faut rester debout. Alléluia. Il faut rester debout. Parce que tu auras des combats tous les jours. Le diable ne va pas te laisser tant qu'on a encore cette chair. Tant qu'on a encore cette carapace. Le diable ne va pas nous laisser. Alléluia. Mais la Bible me rassure. Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. J'ai achevé la course, il a dit. J'ai achevé la course et la couronne de justice m'est réservée le jour de l'enlèvement, le jour de son avènement. Alléluia. Ça, c'est le point final de tous les chrétiens. Nous pouvons faire tout. Nous pouvons faire tout. Mais nous devons avoir un but. C'est de remporter ces prix-là. Alléluia. Que servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Voilà ma vision pour l'Église. Voilà mon souhait pour l'Église, que quand nous venons à l'Église, nous devons grandir. Nous ne pouvons pas rester des enfants. Alléluia. Parce que quand tu restes un enfant, voilà pourquoi beaucoup de serviteurs même de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu restent toujours enfants. Tu le vois dans le ministère pendant 10 ans, 15 ans. Mais s'il reste enfant, et un enfant, on connaît les enfants. Un enfant, il se bat toujours. Alléluia. Alors qu'un adulte, même s'il y a des discussions, ils ne vont pas se battre. Mais un enfant, il va se battre tout le temps. Voilà pourquoi on a des divisions dans les églises. Parce que les hommes de Dieu ne veulent pas grandir. Ils restent enfants. Parce qu'ils n'ont pas connu la vérité. Parce qu'ils n'ont pas de bons fondements en eux. Alléluia. Ils restent enfants. Ils ne veulent pas grandir. Quel que soit le ministère qu'il a. Quelle que soit l'ancienneté qu'il a. Parce que devant Dieu, Dieu ne voit pas notre ancienneté. Tu peux rester 20 ans dans l'église. Tu peux rester 20 ans. Tu peux être responsable et je ne sais pas de quoi. Alléluia. Dieu ne voit pas ça. Mais Dieu voit ce qui est dans toi. Alléluia. Voilà pourquoi il était parti chercher David. Alléluia. Voilà pourquoi il était parti chercher David. Parce qu'il avait vu quelque chose en David. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière ce matin, que je sais une chose, nous avons eu la grâce d'être sauvés. Mais ne prends pas cette grâce en vain. Ne bafoue pas la grâce de Dieu. Le souhait de Dieu, le souhait de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un jour nous puissions les rencontrer. Ça, c'est le souhait de Dieu. J'ai toujours dit, tu étais chez toi, tu pouvais rester, tu pouvais faire la grâce matinale, mais tu es là. Si tu es là, parce que Dieu veut que tu sois là. Et si tu ranges ta vie devant Dieu, je sais une chose, je crois à ce Dieu-là. Ce que tu cherches, Dieu te donnera. Dieu va te le donner. Parce qu'il a dit, si tu obéis à ma voix, si tu marches conformément à mes paroles, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le diacre, ce n'est pas qui que ce soit. Ce n'est pas la parole de mon frère Ed, mais c'est la parole de Dieu. Dieu a dit, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Alléluia. Alléluia. Il ordonnera, il donnera des ordres et la bénédiction va obéir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons chercher Jésus-Christ d'abord. Après les restes, lui, il va s'occuper de cela. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, il pense à ses bien-aimés. Pendant que nous dormons, le Seigneur pense déjà à ce que nous allons manger. Alléluia. Moi, j'ai mes enfants à la maison. Je ne pense pas. Les enfants ne s'inquiètent de ce qu'ils vont manger demain. Alléluia. C'est moi qui s'inquiète. Qu'est-ce que mes enfants vont manger? C'est comme Dieu. Dieu est notre Père. Alléluia. Si tu crois à cela, que Dieu est ton Père, Dieu est ton Père, sache-le, bien-aimé, ce matin. Sache-le, bien-aimé, ce matin, que tout ce que tu cherches, c'est que tout ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie, il va se réaliser parce qu'il est ton Père. Mais ce qu'il te demande, que tu obéisses à sa voix, que tu ne sois pas comme Diotrephe, que tu ne sois pas comme Demas, qui, les gens qui étaient dans l'église, mais qui n'étaient pas avec Dieu. Alléluia. Le pasteur Beck ne connaît pas ta vie. Même ma soeur, mon frère, il ne connaît pas ta vie. Mais seul le Seigneur connaît notre vie. C'est lui qui sonde le cœur et le rein. Ça ne sert à rien de mener une double vie. Parce que ces jours-là, le Seigneur va te vomir. Le Seigneur va te vomir. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons faire la prière. Toi-même, tu connais ce que tu es. Tu connais ce que tu es. Christ a donné la définition d'être un disciple. Il ne dit pas celui qui prêche bien qui est mon disciple. Il n'a pas dit celui qui est pasteur qui est mon disciple. Il n'a pas dit celui qui est évangéliste ou prophète, ou arbitre, je ne sais pas quoi, quel titre, qui est mon disciple. Mais il a dit, celui qui se renonce à lui-même, celui qui s'abandonne à lui-même, celui qui est son frère, qui est sa mère, c'est lui qui est mon disciple. Celui qui se renonce à lui-même, c'est lui qui est mon disciple. Et on a vu l'exemple des chrétiens qui étaient dans l'église. Est-ce tu es Gaïus, à qui on a témoigné qu'il marchait dans la vérité de la parole de Dieu, ou tu es Diétrophe, qui empêchait même les gens de venir à l'église, ou tu es Démas, qui a abandonné le Seigneur à cause de l'amour de ce siècle, ou tu es Alexandre de Forgeron, qui a fait du tort à l'église à cause de son comportement, bien que tous ces mondes, ils étaient dans l'église. Est-ce que tu es Gaïus ou tu es Diotrophe? Nous allons incliner nos têtes dans la prière et tu vas recommander ta vie au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, tu connais ma vie. Il n'y a aucun frère dans cette salle. Il n'y a aucune sœur dans cette salle qui connaît ma vie plus que toi-même. Je me dis que je suis disciple. Alors peut-être je ne le suis pas. Je veux que ma vie change. Je ne veux plus amener cette vie de Diotrephe. Je ne veux pas amener cette vie d'Alexandre de Forgeron. Je veux mener une vie de Gaïus. Tu vas t'abandonner devant ton Dieu et tu vas prier que tu marches encore une fois avec Dieu. Si tu as déjà abandonné la voie de Dieu, si tu as abandonné la foi, tu vas dire, Seigneur, me voici. Me voici, récupère-moi. Prends-moi de la même manière que tu avais récupéré l'enfant prodige. Tu vas prier. Alléluia. Prions.